des philosophes publics.
Alors bleu, c'est quoi ? Religion.
Là, c'est on a retourné le problème
faire
en fait.
À l'extérieur de la classe, ce qu'on fait à l'intérieur de la classe, c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
Bon, alors non, on a le droit, de retourner.
C'est,
hein.
C'est sûr.
Rouge, société.
Poser des questions, mais c'est peut-être de créer du désir.
Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose de mieux.
C'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune.
Il est né d'un sentiment, sans aucun doute partagé, d'être confronté à des événements révélant une crise grave de la société.
Crise des représentations,
des institutions
et des rapports au monde. Ce collectif a décidé d'aller partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer,
de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait
pour une société plus joyeuse,
plus éclairée,
plus solidaire.
Philosophe public.
Bonjour à toutes et bonjour à tous pour cette émission des philosophes publics. Aujourd'hui, qui va se dérouler avec Monique.
Bonjour,
Monique.
Bonjour.
Morgane.
Bonjour.
Maïssa.
Bonjour.
Et puis moi-même, Mathias. Une série d'émissions que l'on voulait consacrer aux migrants. Alors, on avait noté sur, avec et autour des migrants, quatre émissions qu'on voulait autour de ce thème-là. Et immédiatement, avec le désir peut-être de revenir sur ce mot qui s'est imposé dans les médias, parce que vous savez bien que d'autres existent, immigrants, émigrés, réfugiés, demandeurs d'asile, et avec à chaque fois peut-être des problématiques particulières sur chacun de ces termes. Un premier problème par rapport à ce terme de migrant qui s'est imposé, il nous semblait qu'immédiatement, on perdait quelque chose avec le mot. Ce mot pouvait sembler comme abstrait. On perdait l'idée de la provenance des gens, de leur présence et peut-être aussi de leur destination, comme venu de nulle part, allant nulle part et n'étant peut-être pas vraiment là, puisque toujours de passage. Alors peut-être qu'on voulait commencer l'émission en revenant un petit peu sur le mot ou sur le nom et sur la difficulté de la nomination, parce que vous allez voir que ce nom n'est dans un premier temps pas toujours accepté par les personnes elles-mêmes. Quelqu'un qu'on avait envie de vous conseiller, qui est Alexis Nousse, commence souvent ses interventions ou ses conférences. C'est un professeur de lettres qui s'intéresse à l'exil, sur la difficulté du nom, et il reprend très souvent les premières phrases de Bertolt Brecht en 1937, alors qu'il avait fui l'Allemagne. Il écrivait la chose suivante. J'ai toujours trouvé faux le nom qu'on nous donnait, émigrant. Le mot veut dire expatrié. Mais nous ne sommes pas partis de notre gré. Pour librement choisir une autre terre, nous n'avons pas quitté notre pays pour vivre ailleurs. Toujours s'il se pouvait. Au contraire, nous avons fui. Nous nous sommes expulsés. Nous sommes des proscrits. Et le pays qui nous reçut ne sera pas un foyer mais l'exil. Bertolt Brecht, donc, dans une série de poèmes, est immédiatement doublé par quelqu'un dont on aurait aussi envie de vous parler aujourd'hui, qui est Hannah Arendt, et qui elle, va refuser un autre nom, qui est le nom de réfugié. Alors, on pourrait penser qu'il est plus approprié, mais regardez ce qu'elle en dit. « Tout d'abord, nous n'aimons pas que l'on nous traite de réfugiés. Nous nous baptisons « nouveaux arrivants » ou « immigrés ». Nos journaux sont destinés aux Américains de langue allemande et à ma connaissance, il n'y a pas et il n'y a jamais eu d'association fondée sur les persécutés du régime hitlérien dont le nom put laisser entendre que ses membres fussent des réfugiés. Alors vous avez vu donc, d'un côté Brecht qui refuse le nom des migrants, de l'autre côté Hannah Arendt qui refuse le nom de réfugiés. Ce qui me semblait intéressant, c'est qu'on a l'impression que finalement peut-être qu'aucun nom ne convient, et peut-être que si les noms ne conviennent pas, c'est que la situation ne convient pas non plus. Et puis ce qui est peut-être aussi insupportable, c'est qu'on nous donne tout le temps des noms de l'extérieur. On reçoit comme ça un nom et on ne s'y retrouve pas. Alors on avait envie de ne pas accepter le mot migrant trop vite, de le suspendre et de le laisser résonner et de continuer à réfléchir un peu dessus avant de réfléchir sur un phénomène, sur une question, et puis avec des gens qui parlent eux-mêmes de leur sort ou de leurs conditions. Maïssa, il me semblait que quand on en parlait aussi quelquefois, tu avais d'autres pistes à développer autour de ce terme de migrant, de ce qui pouvait avoir de problématique.
Non, je pense que c'est un peu les mêmes pistes qui sont tissées. C'est le fait que migrant, il porte une forme de naturalité. En fait, déjà dans son rapport au temps, c'est le migrant, c'est celui qui est suspendu, qui a ni passé ni futur. Moi, ça m'a toujours fait penser aux oiseaux migrateurs. Alors, c'est terrible. Et c'est celui qui est perdu, sans histoire, contrairement à l'émigré, l'exilé. C'est l'exilé ou l'émigré, c'est celui qui vient de quelque part, qui porte une culture, qui porte un monde, qui porte un registre symbolique d'appartenance, des proches, et qui a un passé et qui arrive avec tous ses mystères, avec ses difficultés, ses pudeurs à se dire, et qui, du coup, suscite notre curiosité. Le réfugié, c'est celui qui cesse sa fuite, qui trouve refuge, et donc qui trouve refuge dans un endroit où il a tout à construire, où une ville l'attend, et donc où nous, on a une place à lui faire, et parce que l'accent dans réfugié est mis sur le futur. Or, le terme de migrant, j'ai l'impression pour moi, hein, je ne sais pas si vous êtes d'accord, qu'il est sans passé et sans futur. C'est propre du participe présent. Il n'est défini que par sa situation présente, donc dans ce temps suspendu. Et puis, d'autre part, c'est une notion qui est dépolitisée aussi. Et en ce sens, elle est naturalisée. Ce n'est pas seulement dans le rapport au temps, mais dans le rapport à la politique. Contrairement aux notions de clandestins, de sans-papiers, de demandeurs d'asile, qui se définissent par la négative dans leur rapport au droit, dans la part qu'ils demandent à prendre au sein de notre monde commun, la part politique donc, qui leur niait, etc., mais qui est dialectisée, hein, qui est posée par rapport au droit. Le migrant, il y a une forme de neutralité, un usage prétendument descriptif d'une réalité, et en fait, qui coupe celui qui arrive de la question de la place dans l'humanité et dans notre société, parmi nous. Et en fait, je pense beaucoup à Arendt, pour qui il y a un danger à partir du moment où on nie la dimension politique et où on en fait un fait naturel, une question de nature. Et elle dit qu'à partir du moment où il est traité comme un fait naturel, comme un mouvement de population, donc comme un flux, se profile la perspective de population flottante. Flottante, c'est intéressant ce terme de flottant. Des masses sans état, sans protection, qui sont livrées au danger d'un anéantissement de masse. Monique.
Ouais, mais en même temps, je trouve que ça dit bien quelque chose de l'invisibilité, quoi, de la réalité de l'invisibilité. Donc, des gens qui sont là, qui sont arrivés, qui sont de passage, ou qui sont destinés, ou qui se destinent à s'installer, ou qui simplement sont là parce qu'ils veulent aller ailleurs. Mais ça dit la réalité de cette invisibilité. Et puis, en même temps, ça ne dit rien de la réalité de l'enfermement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de migrants qui sont dans des lieux d'enfermement, à la frontière gréco-turque, ou ailleurs encore. Hein, et donc, qui précisément sont dans l'impossibilité de migrer, c'est-à-dire de passer, c'est-à-dire de se déplacer.
Et c'est vrai que tu revenais, puisque tu avais suivi, Monique, la présentation, je crois, de la thèse d'une jeune géographe, et sur le fait que le terme migrant ne parlait pas de la difficulté aussi de parler des frontières, parler de cette sorte de déplacement facile, de cette évidence-là, alors qu'il y a tellement de types de voyages différents et de difficultés.
Bah oui, on sait que l'Europe aussi est fermée. C'est vraiment un continent fermé en ses frontières. Et on a des chiffres, hein, mais on a des chiffres qui rendent mal compte aussi de la réalité. C'est-à-dire, on sait qu'il y a 1 million donc, de personnes qui entreraient en Europe sous, je ne sais pas, cette dénomination donc, de migrants, mais je ne sais pas comment utiliser, quel mot utiliser pour rendre compte de leur réalité. Mais ce sont des chiffres eux-mêmes qui ne sont pas stables, car il y a une part d'invisibilité qui n'est pas négligeable.
Est-ce que cette invisibilité aussi ne dirait pas notre envie de, en tout cas l'envie du politique de ne pas voir, parce que justement ils ne font que passer, et quelqu'un qui ne fait que passer, on n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit pour qu'il reste. Le participe présent nous ramène aussi à ça, à cette réalité qui est que finalement, la migration, comme tu parlais des oiseaux migrateurs, passe et ne s'arrêtera pas. Donc si elle ne s'arrête pas, comment penser un avenir pour eux? Comment penser, pourquoi réfléchir sur leur passé et comment penser un avenir? Donc c'est vrai que ça pose une question aussi éminemment politique de ce terme, et à savoir, du coup, qu'est-ce qu'on en fait de ce terme? On l'abandonne, on l'enlève totalement de notre manière de parler. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors c'est vrai que dans les propositions, par exemple, quand on recommandait tout à l'heure le très beau travail d'Alexis Nuzelovici, c'est-à-dire Nous, qu'on peut retrouver sur le net, une très belle conférence sur YouTube, donc qu'on peut voir donc à la Casa de Nous, lui, il propose de les appeler...
Pardon, Mathias, qui s'appelle Pour un droit d'exil. Hein,
c'est ça? Oui, c'est ça, pour un droit d'exil. Et il propose dans un premier temps de... Lui, il dit, moi, je les appelle les arrivants, car c'est une réalité tangible, indiscutable, ils arrivent. Ils sont, alors je ne sais plus comment est-ce qu'il dit, il dit justement, ils sont sur la rive, ils sont sur notre rive, ils sont sur ma rive, ils m'arrivent aussi. Et cela les définit donc au moment où nous les voyons. De surcroît, il dit que c'est la réalité géographique, ils viennent donc sur les rives de l'Europe. Et quand on en discutait tout à l'heure, il y a toujours ce côté un peu étonnant aussi du terme, mais c'est vrai que ça peut être aussi fictif un petit peu, ça fait un peu science-fiction, on disait tout à l'heure aussi le côté arrivant comme ça. Donc ce qu'il propose lui, ce qui lui convient mieux, c'est d'appeler ces personnes-là et de réfléchir sur l'exil et de parler d'exilés. Après, bien sûr, si on suit le fil de ce raisonnement, on a aussi envie de ne plus les appeler à partir d'une catégorie, mais de les appeler par leur nom aussi et par leur prénom, et de penser, puisque lui, nous travaille sur toutes ces dominations. Il reprend le poème de quelqu'un qui à la frontière, alors qu'on lui pose des questions sur son lieu d'habitation, répond « J'habiterai mon nom ». Dans ce que ça peut avoir de déroutant, de, pour refuser le nom des autres, finalement habiter aussi un nom, un prénom qui ne désigne rien à part soi. Mais ce qui est intéressant dans la notion d'exil, dit-il, c'est que l'exil, nous connaissons. L'exil, c'est aussi nous connaissons ça dans notre culture. Et l'exil s'oppose d'une certaine manière au droit d'asile, et c'est-à-dire que le droit finalement que l'on donne pour nous-mêmes à d'autres, et parler d'un droit d'exil, ce serait le droit finalement que les autres auraient avant même qu'on leur donne. Donc il y a tous ces moments où ça bouge entre les noms. Peut-être également qu'une fois qu'on déconstruit tous ces noms, on peut les employer, surtout s'employer en regarder la situation, en voyant comment la diversité des noms finalement importe moins que finalement le rapport qu'on peut avoir avec les gens directement.
Ouais, enfin moi j'aime bien exil, mais en même temps j'ai l'impression que c'est une assignation à n'être jamais là, c'est-à-dire l'exilé, il prend pas place, quoi, parce qu'il est toujours dans un arrachement et dans un ailleurs qui lui interdit simplement de prendre pied, et toutes ces catégories en tout cas renvoient à ceci que on a affaire à un système classificatoire où l'autre n'y est pas, quoi, c'est-à-dire on a comme ce qui nous embête dans ces catégories, c'est aussi qu'on a l'impression qu'elles interdisent la rencontre, quoi, là, simplement avec quelqu'un qui est comme moi, c'est-à-dire qui a une vie, qui a une existence, un parcours, des difficultés, une galère, et qui doit faire face à des besoins quotidiens et dans sa vie, donc affronter des difficultés qui... Alors, on dit... On a du mal à dire qui pourraient être aussi les nôtres. Bien sûr que ce ne sont pas les nôtres, ce ne sont pas les mêmes difficultés. Mais en même temps, s'il n'y a pas de possibilité de réciprocité ou de symétrie, c'est personne, quoi. Il n'y a plus à ce moment-là une existence semblable à la mienne que je sois en possibilité de rencontrer, qui me fasse face. Il n'y a plus personne, il y a juste une catégorie, quoi.
Et quand on réfléchissait de la même manière au nom à donner à cette émission en particulier, à cette première de la série, et qu'on cherchait finalement un nom pour l'émission qui nous donne des forces, qui nous potentialise, qui nous rende capable de quelque chose, on trouvait qu'une expression nous bougeait ou nous donnait à réfléchir, et c'est aussi celle de l'article d'Étienne Balibar, d'un petit texte d'Étienne Balibar qui s'intitulait « Ce que nous devons aux sans-papiers ». Avec toute l'ambiguïté derrière ce terme-là, à la fois ce que nous devons au sens où les devoirs politiques qu'on pourrait avoir, ce que nous devons aussi au sens de la dette, ce qui nous est donné par la présence pour aller contre l'image comme ça, toujours d'une aide unilatérale comme ça, comme si ça marchait comme ça, la coprésence. Et donc voilà, on a donné comme nom, c'est ce qu'on retrouvera aussi pour le podcast de cette émission, ce que nous devons, alors au sans-papier c'était encore un autre nom, et un nom assez intéressant aussi qui était donné à ces gens qui ont pourtant tellement de papiers mais souvent pas les bons, et en plus ça change beaucoup dans le droit français. Donc c'était aussi l'occasion de réfléchir là-dessus, à ce que ça fait bouger la présence de ces gens, et surtout les luttes communes, et puis les luttes des personnes migrantes et sans-papiers. Maïssa, je sais que tu avais réfléchi là-dessus, à ce qui se passe, ce qui
bouge. Ce que nous devons, il y a plusieurs sens. Il y a effectivement ma dette, ce que je dois à l'autre, qu'elle soit de type moral, intersubjectif. Mais il y a aussi ce que l'autre m'apporte. Je lui dois d'avoir déplacé ça chez moi, ou je lui dois d'avoir changé ça en moi. Et moi, ce que je trouvais intéressant, c'est à quel point l'endroit du réfugié, cette catégorie, cette présence de l'exilé, du réfugié, du migrant, on ne sait pas, on va prendre plein de guillemets à chaque fois, mais on va finir par en parler. Et donc, c'est de mettre en lumière les pratiques politiques qui s'appliquent à eux, et qui finalement s'appliquent à nous aussi. Et en fait, c'est comme un négatif en photographie, c'est-à-dire qu'en regardant comment les catégories juridiques et comment le droit français s'occupe de ces gens qui arrivent, c'est une manière de voir en négatif comment ils s'occupent de nous aussi. Et donc, c'est cette gestion par la catégorisation, par l'éclatement des catégories, qui est une forme de gestion des flux. On gère des flux. Comment, en faisant entrer des personnes dans des catégories dans lesquelles, c'est ça qui est important à mes yeux, c'est dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas forcément. Et donc, regardez un tout petit peu, si on regarde le nombre de catégories qui s'appliquent aux gens qui arrivent. Donc, il faut qu'ils se repèrent en fonction. Donc, est-ce qu'ils rentrent dans la catégorie demandeur d'asile, qui est une catégorie large mais qui exclut pas mal de gens déjà. Demandeur d'asile, dubliné. Les dublinés, c'est donc des gens qui sont sous procédure Dublin, c'est-à-dire qu'ils doivent demander l'asile dans le premier pays dans lequel ils sont rentrés. Donc, ces dublinés, par exemple, n'ont jamais projeté leur vie dans ce premier pays d'Europe dans lequel ils sont entrés. S'ils ont laissé leurs empreintes, c'est de façon forcée. D'accord ? C'est pour sortir d'un camp, souvent. Pour sortir d'un premier camp, on leur a dit « laissez vos empreintes », sans leur dire que finalement, ils seraient amenés à demander leur asile et donc leur vie ici. Les dublinés, une autre catégorie, troisième catégorie, on a dit demandeurs d'asile, dublinés. Dublinés déclarés en fuite, auxquels l'administration et les catégories s'appliquent, enfin les procédures sont complètement différentes parce qu'ils peuvent être immédiatement mis en centre de rétention administrative en CRA. Il y a les réfugiés. Les réfugiés, c'est donc ceux qui finalement sont arrivés au bout du compte et qui arrivent, auxquels on donne l'asile. Mais par exemple, là où ils ne se reconnaissent pas, souvent il y a des surprises, à savoir qu'ils ont signé un papier dans lequel ils s'engagent à ne plus retourner au pays. Je ne sais plus pour combien de temps, je ne sais pas si vous avez... ça aussi, c'est une forme de surprise qui fait partie de la catégorie et dans laquelle... Enfin, qui est une forme de dépossession de sa propre vie. Il y a ceux, encore, cinquième catégorie, qui sont hors la loi finalement parce qu'ils reçoivent un OQTF, ordre de quitter le territoire français. Alors, il y a encore d'autres procédures. Et puis, il y a ceux qu'on repousse hors des frontières de façon illégale, hein, soit à Vintimille, ça peut être des mineurs qui finalement n'auront jamais l'occasion de demander l'asile, ou alors ceux qu'on repousse vers la Libye en donnant de l'argent aux milices qui vont finalement les opprimer encore plus, et de façon complètement contraire à toutes les conventions. Donc, ce placement des populations en fonction de critères qui vont déterminer leur vie, qui vont déterminer leur destin, dépendent des catégories dans lesquelles on ne se reconnaît pas forcément. Et ça, je trouve que ça met en lumière nos propres vies aussi. À quel point, nous, quand on va à Pôle emploi, on doit trouver des catégories, enfin, on doit se retrouver dans une catégorie qui n'est pas du tout faite pour nous, et finalement, on n'a qu'une envie, c'est de... Ouais, Monique.
Non, mais je t'en prie. Non, fini, vraiment.
Si, complète, moi, c'est très d'accord. Bien.
Non, je voulais juste revenir, parce que tu as dit gestion des flux, donc je voudrais revenir sur la réalité des flux, parce qu'il me semble qu'on a l'impression d'avoir affaire à une réalité qui est massive, énorme. On parle d'invasion, quand même, des réfugiés, il y a tout un vocabulaire de l'invasion, donc, qui est propre à cette réalité. Réalité, qu'on a du mal à nommer depuis le début de l'émission, migration, réalité des réfugiés, etc. Donc juste quelques chiffres. En France, tous les ans, il y a 28 000 régularisations, mais qui ne concernent pas seulement les migrants et les réfugiés. C'est-à-dire qu'il y a 28 000 autorisations de séjour et de travail en France. Mais sur ces 28 000, il y a seulement 8 770 autorisations d'admission d'asile, c'est-à-dire de statut de réfugié qui sont accordés. Seulement 8 770. Or, il faut savoir, donc il y a 66 millions de Français à peu près, et il faut savoir qu'en France, il y a aussi 30 000 expulsions par an. Ça veut dire que le solde migratoire en France est négatif. Ça veut dire qu'on autorise, on expulse davantage qu'on accueille, c'est-à-dire qu'on régularise une situation... que ça soit la situation d'un sans-papier, que ça soit la situation d'un demandeur d'asile.
Quand on voit le coût des expulsions, en plus en France, qui s'élève presque autour de 2 milliards d'euros, quand on voit ce que coûte une expulsion d'une simple famille qui pourrait vivre ici avec accompagnement policier, etc., on voit que, et là, c'est pas des arguments que j'utilise, on pourrait aussi s'interroger sur la nature des arguments pour savoir pourquoi les personnes étrangères ont-elles des droits? Si on voulait poser la question aussi de façon cynique, on pourrait bien voir que ça marche pas les différents arguments. Même pour des arguments, on pourrait dire quoi, égoïstes, intéressés, etc., qu'il ne faut surtout pas avoir, parce qu'on pourrait aussi critiquer ce type d'argumentation, ça fonctionne pas. Donc on voit que les raisons sont idéologiques derrière, c'est plutôt des constructions d'identification, avec qui est-ce que je vais me retrouver, avec qui est-ce que je vais pas me retrouver. Et effectivement, on a encore affaire à une façon de dissimuler des solidarités, etc., politiquement. Donc je crois qu'il faut qu'on réfléchisse sur tout ça, y compris sur la politique et sur le droit. Et on aimerait bien consacrer un petit peu de temps, déjà aujourd'hui, et aussi dans une toute prochaine émission, à cette question-là du droit des étrangers, qui est un droit qui en France ne cesse de varier. Il y a un nombre de réformes incroyables, beaucoup plus que sur d'autres points, alors que tu viens de le dire, il n'y a pas de problème réel sur ce point.
Oui, parce que comme disait Maïssa, effectivement, ce n'est pas que la recherche d'un droit égoïste qui est en jeu derrière le droit que l'on donne aux migrants, mais peut-être aussi toute l'idée du droit qui pourrait concerner chacun de nous dans notre société. Anna Arendt disait le droit d'avoir des droits, et je crois qu'on est tout à fait là. Quand on parle de réviser le droit de circulation, ce droit de circulation-là, il concerne chacun d'entre nous. Donc, qu'est-ce qui se passe pour notre propre circulation quand on empêche tout un chacun de circuler ? À partir de là, ça pose encore un souci. Qu'est-ce qu'on est, nous, alors, quand on circule ? Qu'est-ce qu'on est quand on quitte notre pays pour aller ailleurs ? On n'est jamais un migrant, on est un expatrié. Ça voudrait dire quoi ? Là aussi, c'est une question de mots. Que nous aurions le droit de quitter le territoire français pour nous installer ailleurs, que nous aurions des droits par rapport à là, et que d'autres n'auraient pas les mêmes droits de quitter leur pays pour s'installer chez nous. Ça remet en cause, c'est ce que tu disais aussi, Maïssa, toute l'idée du libéralisme, enfin, c'est...
C'est ça. Si on pense notre système politique à partir de l'angle privilégié qu'est le réfugié ou le migrant, ça met en lumière aussi les incohérences et les contradictions internes du système libéral,
oui,
qu'il soit politique ou économique. Politique, du point de vue politique, parce que finalement, on reproche... le migrant, c'est quelqu'un qui va chercher ailleurs une vie meilleure, ce qui est complètement conforme au système, à la conception libérale de l'individu, qui va rationnellement chercher une vie meilleure et qui fuit l'endroit où la vie est impossible, où il ne peut pas fonder une famille, etc. Et finalement, ceux-mêmes qui interdisent aux migrants, enfin qui trouvent qu'il n'y a pas de place pour les migrants, c'est ceux qui vont reprocher aux autochtones de... Alors, ils reprochent aux migrants de faire ce qu'ils reprochent aux autochtones de ne pas faire, à savoir faire les choix pertinents de vie, audacieux, etc. Deuxième contradiction aussi, c'est du point de vue de l'État démocratique, il semble complètement incohérent de ne pas accorder la liberté de quitter le pays où on est né par contingence, hein, comme ça, par hasard. Il semble incohérent aussi de nier la liberté de circuler sur une planète qui a un bien commun. Et puis d'aller rejoindre des proches, la liberté d'aller rejoindre des proches qui comptent pour nous, etc. Donc il y a cette incohérence politique du point de vue du principe même de l'individu libéral. Et puis deuxième chose, il y a aussi, peut-être non, c'est trop long, peut-être... alors, il y a quelque chose qui, je pense, m'intéresse beaucoup, il faudrait creuser ensemble, et puis il faudrait qu'on creuse aussi avec un économiste. C'est une petite phrase de Rancière qui montre que finalement, c'est toute la logique du système libéral qui est ici remise en cause, qui est mise en lumière grâce aux réfugiés. À savoir, il dit, pour que les capitaux circulent librement, il faut éviter que les hommes ne circulent librement. Et c'est, le réfugié arrive à l'endroit de cette rencontre brutale entre la simple possibilité de vivre et l'ordre international tel qu'il est structuré, à savoir pour permettre la circulation des capitaux. Donc ça, je pense que ce serait très très long de développer ce lien, mais je pense que le lien et cette contradiction, elle est fondamentale, elle est à penser, et c'est une grande mise en lumière de ce qu'on vit, nous.
Et contradiction au niveau du droit, puisque justement il faut repenser le droit et les droits de l'homme, puisque comme Hannah Arendt le travaillait, et il va falloir qu'on consacre une émission à ça. Dans son livre Les origines du totalitarisme, elle révèle une sorte de paradoxe des droits de l'homme, puisque on dit que ces droits sont inaliénables et imprescriptibles, car supposés donc indépendants de toute appartenance collective déterminée. Pourtant, c'est précisément au moment où des êtres humains sont privés d'un gouvernement propre et ne peuvent donc plus compter sur d'autres ressources que leurs droits naturels, qu'ils se retrouvent sans droits. Donc cette sorte de contradiction entre les droits de l'homme et les droits des étrangers, quand tout d'un coup un homme n'est plus qu'un homme, on pourrait penser que, eh ben non, puisqu'on voit que dès l'entrée, les droits de l'homme étant les droits du citoyen, quand on n'est plus citoyen, visiblement, on n'est plus un homme. Donc c'est ça qu'il faut aussi penser, nous devons ça sûrement aussi aux migrants, aux sans-papiers, de réfléchir sur ce qu'on prétend mettre en place en termes de droit et sur ce qui se passe réellement. Alors pour ça, également, il faut non seulement réfléchir sur les droits fondamentaux, mais également savoir où on en est du point de vue du droit. Et c'est pour ça qu'avec les philosophes publics, on essaye de participer actuellement à un observatoire de l'accueil et des demandeurs d'asile à Marseille, avec de très nombreuses associations, le réseau Hospitalité, la CIMAD, j'en passe, on pourra retrouver tout ça sur le net, et la constitution d'une sorte de ce qu'on a appelé un livre blanc, mais on s'interroge sur la virginité de ce livre, parce qu'on sait que de nombreuses infractions vont être travaillées. Donc voilà, on s'intéresse à ça. Le livre sortira sûrement en décembre ou en janvier, pour relever tous les dysfonctionnements, et le terme là aussi extrêmement problématique, par rapport à l'accueil des demandeurs d'asile à Marseille, aussi les jeunes mineurs isolés, etc. Le rendez-vous est pris. On va participer à ça, essayer aussi de le penser avec toutes les associations qui travaillent là-dessus, et puis aussi tous les témoignages, que ce soit des demandeurs d'asile eux-mêmes et des personnes qui accompagnent. Donc, à très bientôt pour ça. On va se dire au revoir, un petit mot.
Un tout petit mot aussi, ce que nous devons à la question des migrants ou à ces personnes migrantes, c'est aussi Balibar qui, dans cet article dont vous parlez, Mathias, nomme très bien, à savoir, la mise en lumière, on leur doit la mise en lumière du foyer vivant de la citoyenneté. Et le foyer vivant de la citoyenneté, c'est que c'est pas, la citoyenneté n'est pas une institution ou un statut, mais une pratique collective. Et finalement, le sens de ce livre blanc, la constitution de ce livre blanc, la journée des réfugiés, etc., tout notre engagement auprès des migrants prend sens ici.
Merci, merci pour merci. Ces magnifiques paroles de fin.
Très merci bientôt. À tous pour votre merci. Écoute. Au revoir.
Les philosophes publics.
Là c'est, on a retourné le problème, en fait, en effet. Là,
c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
Mais c'est quoi ce faut-il-là? Est-ce que...
C'est circuler une parole,
c'est ça.
C'est sûr.
Vous posez des questions, mais c'est peut-être de créer du désir.
Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose de mieux.
C'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
Philosophes.
Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune.
Ce collectif a décidé d'aller partout
où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer,
de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait
pour une société plus joyeuse,
plus éclairée,
plus solidaire.
Philosophes Publics.
Vous pouvez nous retrouver sur Facebook
et sur le site de Radio Grenouille.